journal des sciences.
Et pour commencer ce journal des sciences, la pénurie de cortisone en France.
Depuis un mois, les pharmacies et les patients rencontrent de gros problèmes d'approvisionnement. Les médicaments à base de corticoïdes manquent et ce sont les traitements les plus utilisés en France. On n'en est pas à une rupture de stock, on ne peut pas encore parler de scandale sanitaire, hein, l'avenir nous le dira. Mais la ministre de la Santé Agnès Buzyn a d'ores et déjà annoncé un plan d'ici fin juin pour un retour à la normale au mois d'août. Il faut tout de même rappeler que les pénuries de médicaments essentiels sont de plus en plus fréquentes. Pour expliquer celle-ci, plusieurs raisons possibles. Pour la cortisone, par voie orale, on nous parle de problèmes d'approvisionnement, mais on ne sait pas très bien s'il s'agit d'un problème de fabrication avec les usines délocalisées ou un problème de demande inhabituellement élevé. Pour la cortisone par injection, là on touche du doigt à un problème lié à la rentabilité. Les laboratoires pharmaceutiques se désengagent de la commercialisation de ce produit. On écoute Bernard Bégaud, professeur de pharmacologie à l'Université de Bordeaux.
Il y a plusieurs facteurs, effectivement. Ça touche en général des médicaments essentiels. Ils sont pas tellement rentables pour les gens qui les commercialisent, pour les laboratoires. Et ils sont souvent fabriqués par des systèmes assez compliqués de marché. Et en fait, on a donc aujourd'hui deux types de médicaments. Les médicaments dits innovants, voilà, qu'on nous présente pour traiter le cancer, le diabète, etc., qui sont nouveaux et en général très chers. Des fois, ça atteint le délire, hein. Ça peut être des milliers d'euros le traitement. Et puis, on a des vieux médicaments essentiels, dont fait partie l'hydrocortisone, enfin, ce qu'on appelle la cortisone, hein, mais dont font partie aussi beaucoup d'autres médicaments qui sont très peu chers, enfin, qui peuvent valoir quelques euros la boîte, vous voyez. Et ça, pour les laboratoires, c'est pas très rentable. Alors, bien sûr, ça amortit le coût de production, mais il n'y a pas trop de profit à faire dessus. Alors c'est sûr, on ne peut pas les arrêter, parce qu'on ne commercialise plus les corticoïdes aujourd'hui, c'est le drame. En rhumatologie, dans plein de maladies, c'est catastrophique. Donc la production est maintenue, mais je ne veux pas dire en traînant les pieds, mais on voit bien que ce n'est pas là où le profit se fait. Et donc il y a ces systèmes de production sur certains sites, dans certains pays. Et là, il peut y avoir des problèmes d'acheminement, d'assemblage. Comme par hasard, ces pénuries, elles n'arrivent jamais sur les médicaments extrêmement rentables. Vous voyez, ça c'est sûr, hein, parce que là, tout est organisé pour pas qu'il y ait de rupture de marché. Si un jour il y avait une grève des corticoïdes dans le monde, mais c'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe en cancérologie, c'est une catastrophe pour la médecine interne, c'est une catastrophe pour pratiquement toutes les branches de la médecine utilisent des corticoïdes, soit par voie orale, en les avalant, soit par forme injectable, où ils sont extrêmement utiles. Et c'est très préoccupant, effectivement.
Alors pour l'instant, pour résoudre ce problème à court terme, il y a des mesures urgentes, comme mobiliser tous les stocks possibles des laboratoires ou faire rapatrier des stocks d'autres pays européens. Si Bernard Bégaud parlait à l'instant d'éventuelles catastrophes, c'est parce qu'il n'existe pas d'équivalent à ce médicament. Un peu comme pour les morphiniques, la cortisone est une molécule irremplaçable. Elle est issue d'une hormone sécrétée par une glande située au-dessus des reins. Il n'existe pas de substitutif. C'est pourquoi d'ailleurs, elle fait partie de la liste des médicaments essentiels édités par l'OMS. Francis Berenbaum est chef du service de rhumatologie de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Il a lancé une pétition adressée à la ministre de la Santé pour dénoncer cette situation. Il nous explique les effets des traitements à base de corticoïdes sur le système immunitaire.
La cortisone, c'est un très puissant anti-inflammatoire. On a à notre disposition, on va dire, deux grandes catégories d'anti-inflammatoires. C'est ce qu'on appelle les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les AINS, l'ibuprofène, le diclofénac, ce genre de produits. Les anti-inflammatoires stéroïdiens. Et donc là, c'est la cortisone. La cortisone est un produit très 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 efficace, c'est sans doute le médicament le plus efficace sur l'inflammation, avec une action donc sur l'immunité, hein, également à des doses élevées, qui fait également baisser l'immunité, ce qui fait que ça sert dans de très nombreuses maladies, de très nombreuses pathologies. Depuis donc bien évidemment toutes les maladies inflammatoires chroniques, jusqu'aux greffes d'organes, en passant par des indications dans de nombreux cancers. Enfin, vraiment, les indications de ces médicaments sont extrêmement larges, justement du fait de cette très forte activité anti-inflammatoire. Mais dès à présent, on peut dire que la situation est sérieuse à partir du moment où on parle de pénurie de médicaments considérés comme étant indispensables pour la santé.
En bref, deux études font un lien entre la consommation d'aliments ultra transformés d'une part et des risques pour la santé, notamment cardiovasculaire d'autre part.
Par aliments ultra transformés, on entend plats prêts à réchauffer qui contiennent de nombreux additifs, les sodas, les soupes en poudre par exemple. Ce sont deux études épidémiologiques de grande ampleur, l'une française, l'autre espagnole, et toutes deux ont été réalisées auprès de 120 000 personnes. Récemment, on avait déjà fait des liens entre plats industriels avec des risques accrus d'obésité, d'hypertension artérielle ou de cancer. Ici, les deux études montrent que pour ces régimes alimentaires, on voit une augmentation de 12% du risque de maladies cardiovasculaires. Mais alors attention, la corrélation ne veut pas dire causalité. Difficile de distinguer ces résultats des conséquences de style de vie souvent associés à cette alimentation. Ce lien entre ces aliments et la santé reste à approfondir.
Une étude parue dans PLOS ONE revient sur l'hécatombe de Makareu en Alaska.
De 2016 à 2017, entre 3100 et 8500 oiseaux morts ont été retrouvés. Pourquoi ce pic de mortalité? S'agissait-il d'une épidémie? Pas du tout. Les analyses montrent que les Makareu sont morts affamés. Ce sont les conséquences de la fonte des glaces et du réchauffement climatique, dit l'étude. Moins de glace, cela veut dire moins de proies et moins de sources de nutriments dans la mer.
Deuxième sujet de ce journal, que sont donc ces mystérieux flashs lumineux sur la Lune? Un nouveau télescope allemand devrait pouvoir apporter des réponses.
Ces flashs lumineux sont connus sous le nom de phénomènes lunaires transitoires. On les observe depuis 1787 et pourtant, on ne comprend pas leurs origines. Ce sont des flashs assez fréquents, d'environ 20 minutes, visibles depuis la Terre. Donc ce sont des phénomènes importants. Il peut aussi parfois s'agir d'assombrissements temporaires. C'est ce qu'avait observé de près la mission Apollo 11. On ne s'y est jamais trop intéressé jusqu'à présent, mais comme il y a des projets de construction de bases lunaires, cela devient primordial de comprendre ce qui se passe à sa surface. Ce nouveau télescope allemand, installé à Séville en Espagne, va donc cartographier la Lune et enregistrer systématiquement, pendant un an, chacun de ces événements. Et en alliant observation et modélisation, on va pouvoir dégager l'hypothèse la plus pertinente. Il y en a plusieurs. L'hypothèse, alors soit on parle d'impact de météores, soit de phénomènes électrostatiques liés aux effets du vent solaire, ou hypothèse la plus plausible, des réactions liées aux activités sismiques de la Lune. Sur ce point précisément, on écoute Pascal Descamps, astronome à l'Observatoire de Paris.
Pour tenter en fait d'expliquer donc les phénomènes transitoires lunaires, l'une des explications qui peut-être est la plus plausible est celle qui consiste à invoquer ce qu'on appelle les tremblements de Lune. Donc l'origine des tremblements de Lune provient des effets de marée qui existent entre la Terre et la Lune. Sauf que comme on n'a pas d'océan, on a quand même des soulèvements de surface lunaire légers, mais qui provoquent en fait des efforts tels que l'on peut avoir une fissuration de la croûte lunaire en profondeur. Donc ça peut être et donc générer donc des tremblements de terre jusqu'à des profondeurs de 200 km. Et là, vous avez du gaz qui se trouve donc sous la profondeur qui va monter en surface, jaillir, qui va s'échauffer avec des températures très élevées et donc à ce moment-là, comme ce gaz est très chaud, il devient fluorescent. Ça peut être l'une des explications pour expliquer les sursauts de lumière que l'on constate actuellement. Il faut aussi corréler tout cela à la mécanique céleste même, c'est-à-dire on sait que le mouvement de la Lune est un mouvement extrêmement compliqué, avec une orbite lunaire qui est quand même très déformée, c'est-à-dire très elliptique. C'est si là aussi les phénomènes se produisent à des positions de la Lune qui peuvent être quelconques sur son orbite ou qui sont toujours récurrentes. Parce que là on aurait une indication forte que ces phénomènes seraient liés donc non plus à des météorites ou à de l'interaction solaire, mais à quelque chose qui est propre à la Lune et qui est vraiment propre aux effets de marée qui sont générés entre la Terre et la Lune.
Et en bref, vous pouvez l'observer, on vient de le poster sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. La NASA a publié une magnifique carte du ciel sous rayons X.
C'est assez impressionnant et cela a nécessité 2 ans de travail. Elle a été réalisée grâce au spectroscope NICER, Neutron Star Interior Composition Explorer. Il est à bord de l'ISS et il enregistre les sources des rayons X. Cette carte va permettre aux astrophysiciens de mieux identifier le cœur et le diamètre des étoiles à neutrons et notamment des pulsars.
Une étude parue dans PLOS ONE encore avance une nouvelle hypothèse sur l'extinction de l'homme et de la femme de Néandertal. Elle serait due à une chute de fertilité.
On ne sait toujours pas pourquoi cette espèce du genre Homo a disparu il y a 40 000 ans, d'autant plus que sa disparition coïncide avec l'arrivée d'Homo sapiens en Europe. En revanche, ce que l'on sait, c'est que cette espèce a décliné en l'espace de 10 000 ans, et à partir de cette durée, les chercheurs du CNRS ont créé un modèle mathématique pour simuler et tester différents scénarios. Grâce à ce modèle, on sait que le Néandertal n'a pas disparu à cause d'une épidémie ou à cause d'une guerre. Il aurait disparu plus rapidement autrement. Ce que ce modèle mathématique avance, c'est qu'une très légère baisse de fertilité chez les jeunes femmes aurait entraîné cette lente disparition en ce laps de temps. Après, comment expliquer cette baisse de fertilité? Voici un nouveau mystère.
Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre rubrique de science improbable, c'est The Journal of Archaeological Science qui le rapporte. Une découverte assez particulière, un cimetière néolithique, oui, mais enfoui sous une école maternelle.
Il a été baptisé le tumulus des sables, et pour cause, en 2006... À Saint-Laurent-Médoc, dans le sud-ouest, des enfants ont déterré de leur bac à sable des restes humains. Alors, par la suite, les fouilles archéologiques dans la cour de récréation ont révélé un tumulus funéraire vieux de 5600 ans. 5600 ans, c'est la période de l'âge de fer. Les ossements d'une trentaine d'hommes ont été découverts. Et selon cette étude, ce tumulus a été la plaque tournante des activités funéraires pendant des millénaires.
Voilà, si votre petit ou votre petite rentre avec un fémur et essaye de manger le chien, vous saurez pourquoi et d'où ça vient. Merci beaucoup, c'est une transition parfaite avec notre émission sur Lovecraft. Merci beaucoup, Natacha. À la semaine prochaine.